Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Allez, on y va.
Viens, je vais te montrer le jardin.
6h-7h.
Votre jardin.
Hors du jardin sacré, misérable.
François Sorel.
Patrick Mulan.
Et on débute donc, comme chaque samedi, avec le jardin. Bonjour Monsieur Boulan.
Bonjour Monsieur François, bonjour à tous et très très bienvenue dans notre petit jardin d'automne.
Et oui, on poursuit ce rendez-vous jardin avec vos questions bien sûr au 3216. Vous pouvez nous appeler quand vous le voulez, dès maintenant, 3216 ou bien l'appli RMC et Direct Studio. Au menu de ce week-end des experts tout à l'heure, on parlera des cactus. Les cactus reviennent en grâce, oui. C'est le retour de la mode des cactus.
Oui, parce que d'abord, il y a une sorte de phénomène home jungle, là, comme on appelle, donc avec des plantes qui rentrent à l'intérieur. Et ces plantes qui rentrent à l'intérieur, bon, on n'a pas forcément beaucoup envie de les entretenir. Alors on choisit des trucs qui vont tout seuls. Et bien les cactus, c'est ça. Puis dans le contexte, on va dire, d'un décor très contemporain, très design, ben les cactus, avec leur côté architecturé, avec leur côté assez particulier au niveau des formes, et bien ça va très très bien.
Et bien voilà, les cactus, ça sera notre dossier de ce samedi matin. Vos questions, 3216, l'appli RMC et Direct Studio. On trouvera aussi bien sûr vos coups de cœur de la semaine, Patrick. Ce sera en toute fin d'émission. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts. Et on attaque avec Yazid qui est avec nous au 3216 qui nous appelle du Rhône. Bonjour Yazid.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Yazid.
Et bienvenue sur RMC. Patrick Mulan vous écoute.
Merci. Ah ben moi j'avais une question au sujet des cerisiers que j'ai. Là, j'ai deux gros cerisiers. Et chaque printemps, enfin, quand les cerises elles arrivent à maturation, il y a la fameuse mouche, la mouche des cerises qui me pique ces cerises quand elles arrivent à maturité. Et derrière, ben, on n'a même pas le temps de les cueillir, quoi. Elles pourrissent à une vitesse, mais c'est affolant, quoi. Et on ne sait pas quoi faire parce que apparemment, les larves qui sont dans les cerises, elles tombent. Et quand elles tombent, ben, le printemps d'après, eh ben, rebelote, elle se retransforme. Enfin, il y a des mouches qui reviennent et ainsi de suite, quoi. Et c'est un cycle et on n'arrive pas à s'en débarrasser, quoi.
Alors, dans ce que vous décrivez, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a deux mouches qui attaquent les cerises. Vous avez la fameuse mouche de la cerise, donc qui s'appelle Rhacodetis cerasi, peu importe, et surtout Drosophila suzuki. Et quand vous m'indiquez que la cerise pourrit, je pense qu'on a plutôt affaire à la deuxième. Parce que Drosophila suzuki, contrairement à la première qui, elle, a un ver qui va se nourrir un peu de la cerise, mais souvent, ça nous donne en fait des cerises véreuses, ce qui est assez désagréable, mais ça n'entraîne pas, on va dire, une dégradation du fruit.
En revanche, la
drosophile, qui est une mouche du vinaigre, en plus, elle donne un goût extrêmement aigre à tout ce qu'elle attaque, parce que malheureusement, elle n'attaque pas que les cerisiers, elle attaque pratiquement tous les arbres fruitiers. Et donc ça, c'est une vraie plaie aujourd'hui. Et vous avez décrit quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, la nymphose, c'est-à-dire donc la transformation de la larve en adulte, se fait dans le sol. Donc, le premier truc à faire, c'est de placer des bâches autour des cerisiers, au pied des cerisiers, de manière à empêcher la pénétration des larves dans le sol et leur exposition au soleil qui va faire qu'en général, eh bien, elles vont mourir et se dessécher. Donc ça, d'accord, c'est un bon moyen de prévention. Il y a un second moyen, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on n'a plus de produits insecticides ou du moins insecticides qui puissent être utilisés valablement.
Moi, j'ai entendu parler de pièges qu'il fallait placer sur les branches, mais
ça marche
aussi. Je ne les trouve pas.
Les pièges, on met des plaques jaunes on met des pièges englué, oui. En fait, donc oui, on suspend. Ça. Mais ça, dans toutes les jardineries, il y en a aujourd'hui. Hein, ça, c'est des trucs tout bêtes. Alors, il faut en mettre pas mal, hein, parce que plus vous en mettez, plus vous allez piéger d'insectes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez les piéger sous forme adulte, donc généralement avant qu'ils pondent. Sur la mouche de la cerise, on a des pièges à phéromones. En revanche, sur Drosophila suzuki, on n'en a pas, malheureusement. Donc, vous avez à peu près ces deux systèmes-là à faire, de manière à éviter la problématique. Il y en aurait une troisième, mais vous me dites que vos cerisiers sont grands. Ça serait de couvrir l'arbre avec des filets. Des filets à toute petite maille. Voilà. Donc, ça, c'est compliqué. Alors, il reste aussi, mais ça, malheureusement, on ne l'a pas encore. Je ne dis pas encore, parce que je pense que ça va arriver dans le commerce jardin. Un produit de biocontrôle qui est en fait un champignon qui s'appelle Boveria bassiana. Et alors, si vous avez une possibilité d'acheter des produits professionnels, ça se vend dans le commerce sous le nom de Naturalis L. Et ce champignon, lui, en fait, on va le pulvériser. Et il va, au niveau des spores, il va contaminer, en fait, l'insecte. Donc, le problème, c'est que c'est pas extrêmement facile parce que les rayons UV, donc du soleil, les rayons ultraviolets, détruisent, en fait, rapidement le champignon. Donc, ce qui oblige, en fait, à traiter plusieurs fois de manière à avoir toutes les mouches lorsqu'elles volent. Oui. Alors, le truc, c'est de mettre des pièges jaunes, des pièges jaunes, et parce que les pièces, ça va pas être...
Non, ça sert pas à grand-chose.
Non, ça, pas du tout. Et dès que vous avez piégé des mouches, eh bien là, vous traitez au Boveria, de manière à ce qu'effectivement, ça crée là un vrai... Et alors, l'avantage du Boveria, c'est que c'est totalement, disons, sans danger pour les abeilles, par exemple. C'est totalement dangereux pour le reste de l'environnement. Mmh. Mais pour l'instant, on ne l'a pas dans les jardineries. Vous le trouverez dans le circuit professionnel. Et peut-être d'ailleurs, demander à un agriculteur ou un professionnel du coin qui a peut-être aussi les moyens techniques pour traiter des grands arbres de faire ce type d'application.
Alors, et si je peux faire alors à l'envers aujourd'hui, parce que bon, maintenant les larves de l'été, elles sont par terre. Si maintenant je mets des bâches partout avant que, enfin juste avant le printemps, et de façon à ce que lorsque les larves
les empêcher d'émerger, oui, pourquoi pas,
les empêcher d'émerger, exactement.
Alors il y a quand même quelque chose dans ces cas-là. Moi, je vous conseillerais de mettre plutôt du géotextile. Pourquoi ? Parce que le géotextile, il va quand même faire une barrière qui empêchera les larves d'émerger, mais il va laisser passer l'eau des pluies d'automne et d'hiver. Parce que là, on a quand même manqué dans toutes les régions énormément d'eau.
Oui, c'est vrai.
Et il
ne
faudrait pas que la bâche, elle prive, si vous voulez, vos cerisiers d'une eau qui va être extrêmement précieuse.
C'est clair. OK.
Voilà, donc là, on a tout un programme. Je pense que ça devrait marcher. Vous nous tenez au courant l'année prochaine, ça nous fera plaisir.
Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, il n'y a pas de problème.
Merci, Yazid.
Au jardinage.
Merci
beaucoup.
Et si tout comme Yazid, vous voulez poser vos questions jardin sur RMC, profitez-en. On est là jusqu'à 7h avec Patrick, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Il est temps de retrouver le conseil de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et le conseil d'expert de la semaine, Patrick, c'est la bouillie bordelaise. Comment la connaître et bien l'utiliser, surtout ?
Oui, alors aujourd'hui, la bouillie bordelaise, c'est le seul produit fongicide avec le soufre qui est autorisé en utilisation amateur. Donc, il faut bien connaître ce produit.
Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que la bouillie bordelaise ?
Alors, la bouillie bordelaise, c'est une solution de sulfate de cuivre mélangé avec de la chaux. Généralement, on met entre 10 grammes et 30 grammes par litre de chaux, de cuivre, pardon, et on met un tiers de chaux. Et donc ça, on l'en trouve aussi prêt à l'emploi, évidemment, dans le commerce, dans pratiquement toutes les marques, sous forme de poudre à diluer et qu'on va pulvériser. Alors, il existe aussi quelques préparations qui sont sous forme liquide. Alors, c'est un vieux traitement, Ça date des années 1880. Et pourquoi bordelaise ? Parce que ça a été inventé dans le vignoble bordelais.
Bon, alors, à quoi ça sert, la bouillie bordelaise dans le jardin ?
Alors, ce qui est extrêmement important, c'est de savoir que c'est un fongicide. C'est-à-dire que ça ne lutte que contre les maladies d'origine cryptogamique, c'est-à-dire des champignons pathogènes. En revanche, ça n'a aucun effet insecticide, ou du moins pas dans les proportions comme on l'utilise. Parce que si on utilisait du cuivre pur, et ça ne faut surtout pas le faire, le cuivre, il est toxique pour tout,
ah oui,
y compris pour nous.
Oui.
Donc on le verra après. Donc c'est un produit qui est d'origine naturelle, c'est minéral, et donc il est autorisé en agriculture biologique, et on peut le mélanger avec le soufre dont j'en parlais, parce que dans ces cas-là, on va protéger à la fois contre les maladies du type mildiou, mais aussi contre l'oïdium, et vous pouvez même mélanger aussi le sulfate de cuivre, enfin la bouillie bordelaise, avec le savon noir, pour faire un effet à la fois fongicide et insecticide.
Ah, pas mal.
Dans ces cas-là.
Oui. Eh oui, le double effet, on va dire. Et quelles sont les maladies qu'on peut soigner avec la bouillie bordelaise ?
Alors, je disais donc que ce sont les maladies cryptogamiques, donc la tavelure des pommes et des poires, vous savez, ça, ces taches noires qui... Ah, d'une manière générale, tiens, pour simplifier, toutes les taches noires, tout ce qui tache la plante...
Même sur les rosiers ?
Ah bah bien sûr, oui, le marsonnier du rosier, par exemple. Mais aussi tous les mildiou. Mildiou de la pomme de terre, mildiou de la tomate, mildiou de la vigne. Donc ça, c'est très intéressant. Les rouilles et toutes les maladies un peu plus complexes, style cloque du péché, anthracnose, etc. Donc tout ça, ça va être traité à la bouillie bordelaise. Et c'est pour ça que ce produit est aussi précieux. Mais également parce que c'est le seul antibactérien dont on dispose. Alors, ça lutte pour freiner... on va dire, l'expansion d'une maladie bactérienne, comme les chancres bactériens qu'on a sur les arbres fruitiers. En revanche, ça ne le guérit pas.
D'accord. Donc tout ça, c'est important. Comment et quand utiliser la bouillie bordelaise ?
Alors ça, c'est très important. Je disais donc que c'est un produit qu'on va pulvériser sur le feuillage, mais sachez que c'est un produit uniquement à effet préventif. C'est-à-dire que une fois que la maladie est installée,
ça sert à rien de traiter.
Ça sert plus à rien de traiter. D'accord. Donc vous devez traiter... maintenant, à l'automne, là, on est pile poil au bon moment parce que les feuilles commencent à changer de couleur, elles vont bientôt tomber. On va dire que lorsque vous avez entre un tiers et la moitié des feuilles d'un arbre fruitier ou d'un rosier qui sont tombées, là, vous pouvez faire une bouillie bordelaise. Ça va aider les autres à tomber rapidement et surtout, ça va protéger la petite plaie qui se fait à l'articulation du pétiole avec la tige et par laquelle, le plus souvent, les spores de champignons rentrent pour hiverner. Donc là, c'est très important. Et vous recommencerez à faire une seconde pulvérisation au printemps, au débourrement, comme on dit dans le langage technique, c'est-à-dire au moment où les bourgeons éclatent, démarrent, et là, c'est très efficace.
Patrick, ça sert à rien d'utiliser la bouillie bordelaise comme un insecticide. Vous le disiez tout à l'heure. Hein. Vous
confirmez. Pas contre les pucerons, tout ça, non.
Bah, ça marche pas. Hein, ça sert à rien. En revanche, c'est un bon désinfectant.
Oui. Alors, par exemple, si vous avez fait des coupes importantes pour éviter les chancres, vous savez, on met plus tellement de mastic à cicatriser. D'une manière générale, on évite ça. Mais la bouillie bordelaise, elle fait exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire elle va protéger quand même et d'une façon assez efficace, sans aider particulièrement à la cicatrisation, mais elle fait une barrière, un rempart contre l'introduction des pathogènes à l'intérieur de la plaie.
Rapidement, pour terminer, on dit que le cuivre est toxique. Ah oui. On sait que dans la bouillie bordelaise, il y en a. Est-ce que ça pose des problèmes ?
Aujourd'hui, ça pose des problèmes, notamment dans les vignobles, puisque, comme je vous disais, c'est un produit qui date de la fin du 19e siècle. On l'utilise donc depuis plus de 100 ans et qu'il a commencé à s'accumuler de façon importante dans les sols, ce qui génère des pollutions, ce qui se retrouve parfois dans le vin. Il y a aussi une toxicité potentielle pour les applicateurs. Donc, quand vous utilisez une bouillie bordelaise, comme tout autre produit de traitement pour le jardin, vous mettez des gants, vous mettez même un petit masque sur le visage, parce que c'est pas extrêmement toxique en soi pour un jardinier amateur, surtout en utilisation occasionnelle, mais vous pouvez avoir une réaction au niveau des muqueuses, donc vous évitez le contact direct de ce produit avec votre corps.
Parfait, voilà pour la bouillie bordelaise. Alors,
Bourbe.
Ça, c'est la bouillie.
La bouillie
pour les petits cochons. Ouais, ça, c'est la bouillie bordelaise, mais...
Vous vous protégez les oreilles avec un casque et vous balancez la musique, là.
Et là, on est bon. Encore bravo à Paul pour nous trouver toutes ces petites musiques venues d'un autre monde, hein, parfois, on a l'impression. Allez, dans un instant, la suite de ce week-end des experts jardins. Et on va parler des...
cactus.
Donc ça va piquer dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Le monde entier.
Bah oui.
Est un cactus.
Forcément.
Il est impossible de s'asseoir.
Mais oui, forcément, attendez, on parle de cactus.
J'ai des cactus.
Aïe, aïe, aïe.
Oui.
Ça pique.
Aïe.
Ben oui, c'est ça le cactus.
Pas forcément.
On fait un petit coucou à Dutron et on enchaîne sur donc notre dossier de cette semaine. Le retour en grâce des cactus et des plantes succulentes. C'est vrai qu'il suffit d'aller dans une jardinerie, même dans des... magasins style Ikea, etc. On voit énormément ce type de plantes. C'est devenu à la mode.
Alors ça revient effectivement à la mode. Alors il y a des raisons à cela. Bon, on parlait du phénomène home jungle, etc. Mais pas que. Il y a aussi, je pense, la structure même des habitations d'aujourd'hui. Plus nos maisons sont ouvertes vers l'extérieur, plus on a des grandes baies vitrées, plus on laisse rentrer la lumière dans la maison. Et plus les cactus peuvent résister et surtout se développer correctement. Donc ça rentre un petit peu dans cette théorie, si je peux dire, bon, d'intégrer de la verdure dans la maison.
Quelles sont les plantes que l'on appelle des cactus, Patrick ?
Alors oui, les cactus en tant que cactus ou cactées sont les plantes de la famille des cactacées. Alors c'est presque toutes des plantes qui sont originaires d'Amérique centrale, d'Amérique tropicale, il y en a aussi un peu d'Amérique du Sud, et qui ont la particularité de stocker dans leur tissu des réserves d'eau. Et donc, en fait, bon, généralement, ils sont gonflés, ils sont gros. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a presque 90 genres et plus de 2000 espèces.
Très bien. Est-ce que toutes les plantes grasses sont des cactus ?
Alors, déjà, non. Puisqu'il n'y a que les cactacés qui sont des cactus, mais surtout, le terme de plante grasse est totalement impropre, puisque je viens de dire que ce sont des plantes qui ont la faculté de stocker de l'eau, et non pas des corps gras, hein, ce ne sont pas des oléagineuses, par exemple. Donc, on devrait les appeler des succulentes, parce qu'en fait, cette eau, c'est du suc, c'est-à-dire c'est de la sève, voilà. Et donc, ça leur permet, en fait, de résister à de très très longues périodes de sécheresse et même de coloniser les zones désertiques. Et on a un mot pour cela, nous les botanistes, on appelle ces plantes des xérophytes. Les plantes qui résistent à la sécheresse sont des xérophytes.
D'accord. Qu'est-ce qui distingue un vrai cactus d'une plante succulente ?
Alors, hormis le lieu dont je disais, qui est spécifique de l'Amérique tropicale pour les cactus, il y a aussi des succulentes dans l'Amérique tropicale, mais on en a partout. Des succulentes. Mais surtout, quand on regarde un cactus, on voit sur son corps, donc je dis son corps parce que souvent ça ressemble plutôt à un corps, c'est rond ou c'est long, et là vous avez des sortes de petits coussinets qu'on appelle des aréoles sur lesquels viennent se développer ce qu'on appelle à tort des épines et qu'on devrait appeler des aiguillons. Pourquoi ? Parce que ce sont des excroissances épidermiques seulement. Et quand vous retirez un aiguillon de cactus, vous ne blessez pas la plante. Alors que si vous prenez une forbe, un agave, un aloe, lui, il a des vraies épines. Ces épines qui sont des excroissances pointues de sa tige ou de sa feuille. Et là, si vous cassez une épine, bah vous blessez vraiment la plante. Donc là, on voit vraiment la différence. Et puis, il y a les fleurs de cactus qui sont en fait des jolies fleurs rondes, généralement qu'on appelle sessiles. Qu'est-ce que ça veut dire sessiles ? C'est sans tige, sans queue. Elles apparaissent directement sur le corps de la plante, alors que la plupart des plantes succulentes, elles font des inflorescences. Quand vous voyez des agaves, par exemple, vous avez des inflorescences de plusieurs mètres de hauteur. Donc c'est extrêmement différent.
Très bien. Est-ce que les cactus vivent très longtemps ? J'ai cru comprendre que certains, oui.
Oui, il y en a qui sont estimés dans les déserts de... Alors, en Arizona, les grands saguaros, ils ont environ 250 ans. Vous savez, un saguaro, vous voyez ce que c'est vraiment le cactus qu'on voit dans les westerns. Mais pour qu'il soit ramifié, ce cactus, qui ressemble un peu à un grand cierge, une grande colonne, ben déjà la première ramification, elle n'apparaît pas avant 75 ans. Donc déjà, ce sont des plantes qui vivent longtemps. Mais en Amérique centrale, il y a des cactus extrêmement compacts qui poussent très, 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 très lentement et que l'on estime à pouvoir vivre 1000 ans.
Eh bien, dites-moi, est-ce qu'on peut cultiver des cactus en extérieur dans toutes les régions ?
Alors non, évidemment, puisque comme on dit, ça vient de zones désertiques et ça vient de zones subtropicales. Alors, la plupart des cactus ne supportent pas le gel. Du moins, à partir de moins 3, moins 4 degrés, là, il y a déjà des agressions fortes au niveau des tissus, c'est-à-dire donc les tissus qui vont se craquer ou qui vont se concentrer, se devenir même pourris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'ils n'aiment pas, c'est surtout le froid humide. Il y a des cactus dans certaines régions qui se retrouvent couverts de neige ou qui peuvent même subir à un moment donné une véritable, vraie grosse gelée. Parce qu'ils vivent en altitude, par exemple. Sauf qu'ils sont dans des sols qui sont tellement poreux que l'eau ne reste pas. Et en plus, bon, il est rare que cette neige elle soit durable et que le froid soit durable. C'est un froid nocturne et un froid qui va se transformer en douceur dans la journée sous l'effet du soleil. Et ça, c'est primordial pour savoir comment cultiver des cactus. Parce que ce sont certainement les plantes qui supportent les plus grandes différences thermiques.
Eh oui.
Vous pouvez avoir 40 degrés dans la journée, zéro la nuit.
Eh oui, c'est ce qui se passe dans les déserts.
Voilà, et très très peu de plantes sont capables de supporter ça. Mais quand vous entendez ça, eh bien c'est ce qu'il va falloir essayer de faire chez soi, enfin, pas à ce point-là, mais quand même de donner des différences thermiques pour que la plante se sente au mieux.
Est-ce qu'on peut cultiver des cactus à la maison, à l'intérieur ?
Alors c'est ça, on va plutôt les cultiver dans la maison, mais le défaut de la maison...
C'est qu'il ne fait pas froid, vraiment.
Mais c'est surtout que la température elle est toujours constante.
Et voilà. Et là, le cactus, il n'aime pas trop ça.
Bah, c'est pas qu'il n'aime pas trop, mais il va végéter.
Oui, c'est-à-dire, voilà.
Il va être là, et puis il ne vous fera pas de fleurs, par exemple. Si vous voulez une floraison, vous êtes obligatoirement obligé
d'avoir des contrastes de température.
L'idée, c'est déjà de les mettre dehors pendant la belle saison. Parce que là, naturellement, de toute façon, vous avez une différence thermique entre le jour et la nuit. Ça leur fait du bien. Quand vous les rentrez, essayez de les rentrer. Alors, si vous avez une véranda, magnifique, formidable, vous laissez la véranda hors gel, vous arrosez pas les cactus de tout l'hiver, et là, vous les verrez fleurir, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de véranda, il faut leur trouver une pièce pas trop chauffée, ou du moins... Jouer, alors ça, il faudrait demander à notre ami Christian Pesset la meilleure méthode, mais moi je disais de mettre des robinets thermostatiques sur vos radiateurs, de manière à ce que la température nocturne de la pièce baisse naturellement, parce que ces robinets ont la faculté, si vous voulez, de vous donner la température que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc quand vous êtes dans votre lit, bien au chaud, la température peut descendre à 10-12 degrés dans la pièce. Si vous vous levez à 7 heures du matin, il faut qu'elle soit remontée. Mais donc ça, c'est des choses qui permettent de le faire automatiquement. Et puis ensuite, bien sûr, plein soleil. Donc vous mettez vos cactus derrière les fenêtres. Ça, c'est vraiment l'idéal.
On dit que certains cactus auraient la propriété de diminuer, et ça, c'est une histoire incroyable, les radiations électromagnétiques qui sont émises par la télé ou par les écrans d'ordi, c'est vrai ?
Alors ça, c'est un mythe, quoi. Parce que les radiesthésistes, vous savez, les gens qui utilisent des pendules, etc., ils s'appellent maintenant des géobiologistes, alors ils trouvent ça très très bien, évidemment.
C'est vrai que ça fait plus sérieux.
Donc ils ont dit que le Cereus répandu, le cierge du Pérou, celui qui est très très grand là, qui est un peu bleuté, aurait la possibilité justement d'absorber ces radiations électromagnétiques, mais aucune étude scientifique, évidemment, n'a pu le confirmer. Et puis même, on a l'impression que c'est un peu l'invention du mouton à cinq pattes. Parce que quand vous lisez leur littérature, ils vous disent que pour qu'il soit très efficace, ce cierge, il faut qu'il ait 6 côtes. Mais quand vous regardez la description botanique de cette espèce bien précise, eh bien, on vous dit qu'elle a de 7 à 10 côtes. Alors, je vois pas comment il pourrait en avoir que 6, ou alors ça serait vraiment un spécimen, ça pourrait arriver, mais un spécimen sur 1000 ou 15 000. Donc c'est un peu comme, vous savez, au Moyen-Âge, on vous disait qu'il fallait trouver en pleine lune un truc qui...
C'est un peu mystique, quoi.
Voilà, tout ça. C'est un peu la mandragore du jardinage.
Donc vous n'y croyez pas trop, j'ai l'impression.
Non, mais non,
ouais, d'accord, soyons, restons sérieux.
Voilà.
Est-il vrai, Patrick, toujours dans ce côté un peu originel, que certains cactus sont hallucinogènes?
Alors là, c'est vrai. C'est même très très vrai, parce que le peyotl, ça c'est connu au Mexique, c'est un cactus assez original, qui fait une petite boule, il n'a pas de piquant, les botanistes l'appellent le phophora, qui renferme, mais alors carrément, une trentaine d'alcaloïdes, dont beaucoup de mescaline. Et ça, non seulement c'est hallucinogène, mais c'est psychotrope, c'est-à-dire que c'est carrément une drogue. D'accord. Donc, les Indiens du Mexique, d'ailleurs, l'utilisent depuis très très longtemps. Ils connaissent ça, parce qu'ils font des cérémonies religieuses où il y a le chaman qui va absorber du peyote de manière à rentrer en transe et du coup, bon, bah, faire toutes ces prédictions, etc. Donc, ça, il faut savoir que l'ophophora est interdit de vente dans les jardineries, hein, on l'utilise simplement à titre expérimental dans les jardins botaniques. Mais, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, sachez que le cactus de San Pedro, qui est un trichocereus, lui, on le voit dans toutes les jardineries. Alors, il est moins intensément psychotrope, mais il a aussi de la mescaline.
Il a aussi de la mescaline.
Et donc, il pourrait être dangereux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les scientifiques s'intéressent énormément à ce peyote, parce que, a priori, on a découvert un antibiotique, la péocactine, qui s'est montré, tenez-vous, efficace sur 18 souches de staphylocoque doré. Et donc, on peut penser que ça, c'est vraiment une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques classiques. On pourrait, avec des extraits, des raffinages, etc., de ces produits-là,
soigner les staphylocoques.
Alors, en revanche, il faudrait qu'on puisse le synthétiser, parce que des peyotes, ça ne pousse pas très très vite et on ferait une razzia rapidement sur l'ensemble de la population de ces plantes, malheureusement.
Voilà pour le cactus. On revient dans un instant. La météo du jardinier et les coups de cœur de Patrick. Ça sera pour terminer ce rendez-vous jardin. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
On termine notre rendez-vous jardin, toujours Patrick Mulan à nos côtés et Daniel au 32-16. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bonjour Daniel.
Bonjour Miu Miu.
Oui, je vous écoute.
Alors, j'ai un hibiscus qui n'a pas beaucoup fleuri cet été.
Oh, mais il est beau, j'ai eu des photos là, il est quand même très
beau. Ah, il est superbe, en ce moment il est superbe et il y a une vingtaine de boutons prêts à s'ouvrir. Mais j'ai des petites bestioles qui ressemblent à des coccinelles, mais beaucoup plus petites et noires, noires et brillantes. Et je me demande si c'est pas elles qui me font de temps en temps des trous dans les feuilles. Et alors, ben, dès que je les vois, je les prends, je les enlève, mais ça me fait des trous.
Oui, ça s'appelle des méligates.
Ce sont Méliguette.
Méliguette. M-E-L-I-G-H-E, accent grave, T-E. Méliguette.
Ouais.
Donc, ce sont des tout petits coléoptères noirs. Parfois, ils peuvent être très nombreux. Et alors, ils ont tendance. Alors, soit ils peuvent manger les boutons floraux, d'ailleurs, hein, ça arrive. Hein. Soit, effectivement, ils peuvent. Alors, généralement, ils ne font pas de trous dans le feuillage. Je me demande si le trou dans le feuillage, ça ne serait pas aussi, tout bêtement, des petites limaces. Hein, parce que même sur balcon...
Mais j'en ai pas énormément. Hein. J'ai sur 5-6 feuilles, pas plus.
Des trous?
Oui.
Non, ça, c'est pas... Ouais, de toute façon, il a l'air sain. Bon, alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour ces insectes-là? Ben, c'est vrai qu'à part les prélever, il n'y a pas grand-chose à faire. Le savon noir liquide sera peut-être efficace. Alors, attention, les hibiscus ont quand même des feuilles assez tendres. Donc, si vous voulez utiliser ce genre de produit, faites-le d'abord sur une seule branche ou deux, trois feuilles pour voir comment la plante va réagir. Parce que on a beau dire maintenant, on va utiliser que des produits d'origine bio, etc. C'est pas forcément toujours très facile à supporter pour les plantes. Par exemple, de l'huile de colza, qui est aussi un effet insecticide, l'hibiscus, il va pas aimer ça, ce genre de truc-là. Mmh. Donc, essayez le savon noir liquide éventuellement, parce que ça va étouffer, on va dire, un peu ces petits coléoptères. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, malheureusement, à faire. parce que on est bloqué parce qu'on n'a plus de produits. Donc voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, peut-être, ouais. Ça pourrait être tout bête, c'est de mettre un voile par-dessus la plante, mais après vous perdez un petit peu le plaisir d'avoir la plante puisqu'on l'a pour un aspect décoratif et c'est pas le cas, quoi. Voilà.
Merci Daniel pour votre appel et tout comme Daniel, vous pouvez joindre Patrick au 32 16. Patrick, on va terminer avec votre coup de cœur, mais juste avant, peut-être une ou deux choses à faire dans le jardin pour ce week-end. Bon, on est dans une période où l'automne s'installe tranquillement. Est-ce que vous avez des préconisations?
Alors, il y a un truc que j'aime pas dans les dictons, c'est Saint Wilfried ensoleillé, deux jours plus tard en mitouflé. Donc si vous avez du soleil aujourd'hui dans votre région, méfiez-vous quand même. Donc
du tout coup, ça à cause des Wilfried en plus.
Oui, mais ça va me permettre de vous dire que c'est le moment quand même de penser à rentrer les plantes les plus fragiles que vous avez laissées dans le jardin pour l'été. Ouais. Évidemment, c'est la grande période de plantation des bulbes à floraison printanière. Là, en ce moment, on plante les tulipes, les jacinthes, les narcisses. Alors, si ça vous rebute, je comprends que planter des bulbes, parce qu'il en faut beaucoup pour que ça fasse un effet, mais au moins, planter des narcisses, parce que ça, vous m'en direz des nouvelles. Ce sont des plantes qui, en plus, se naturalisent bien. Comme le bulbe lui-même est toxique, ils ne sont pas mangés par les rongeurs, donc vous êtes garanti d'avoir des bulbes qui vont revenir l'année prochaine, et dans 2 ou 3 ans, il y en aura de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On a parlé de la bouillie bordelaise, donc c'est bien le moment pour empulvériser les arbres fruitiers et les rosiers. Vous avez aussi la possibilité de faire une pré-taille de ces rosiers, alors avant la pulvérisation, bien entendu, de manière à les équilibrer pour l'hiver. Puis c'est les récoltes, on récolte beaucoup de choses en ce moment, donc toutes les pommes et poires d'hiver, les crônes, les noix, les châtaignes, tout ça, les noisettes, voilà.
Et on termine avec votre coup de cœur, vos coups de cœur, Patrick, pour ce samedi matin.
Alors déjà, il faut aller à Chaumont ce week-end parce que c'est un peu la fin du Festival des Jardins, mais il y a la première édition des Botaniques de Chaumont-sur-Loire. Donc c'est des rencontres avec une exposition de vente de pépiniéristes qui sont des producteurs et des collectionneurs et qui vont vous présenter des plantes qui sortent vraiment de l'ordinaire avec des passionnés, mais vraiment des super. Je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité d'y aller, vous ne serez pas déçus. Et puis, puisque nous avons parlé de cactus et de plantes succulentes, écoutez, 3 bouquins autour de ces plantes. Un qui s'appelle Happy Cactus de John Pilbeam chez Larousse pour 12,90€. C'est un livre de petit format qui vous propose 105 fiches qui sont mises un peu en page comme une BD. Donc c'est un peu vintage comme aspect, mais c'est très très facile à lire. Donc c'est une base vraiment sympa pour débuter. Après, vous avez toujours chez Larousse Mini Jardin de Succulentes de Kentaro Kuruda. Donc c'est un auteur japonais qui vous propose 40 compositions de petits jardins qui sont présentées en détail par cette personne qui est un styliste. Donc il vous fait des compositions. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est dommage, c'est que les photos sont toutes petites, donc il y en a plein, mais vous avez du mal à les voir, et puis les compositions sont assez linéaires, je trouve. Bon, c'est pas si mal, mais c'est pas extraordinaire. Et puis un qui est pas mal non plus pour des généralités sur les cactus et succulentes, s'appelle Fascinante Succulente chez Delachaux et Niesté, 100 fiches de plantes, et c'est pas mal comme bouquin.
Patrick, on sera là bien sûr samedi prochain, et évidemment dans un instant on se retrouve pour la maison. Merci Patrick.
Merci à vous les jardins, les jardinières, je vous embrasse, les jardiniers, allez, tant pis, on le fait aussi, et puis ma petite jardinière comme d'habitude, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et dans un instant ce sera la maison, après la météo et les infos, Christian Pesset me rejoint, à tout de suite donc.